Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Orléans 88.3. Nous sommes en direct du ponton à Orléans pour parler d'audiovisuel participatif. Je m'appelle Lucas et nous allons passer une heure ensemble pour parler d'audiovisuel participatif, comme il y a eu les rencontres de l'audiovisuel participatif qui se déroulent en ce moment à Orléans, depuis mercredi jusqu'à dimanche, et c'est l'émission La Rédac Pop. Donc au programme débat, quiz et table ronde et micro-trottoir. Et par rapport à l'actualité, vous avez peut-être remarqué que la Société des journalistes de France Télévisions, ces derniers temps, donc France 3 et la rédaction nationale, dénoncent le mauvais traitement de l'actualité sur les mobilisations contre la réforme des retraites dans les JT de la chaîne, notamment par rapport à l'actualité sociale. Donc ce soir, nous avons décidé, avec les différents invités, de parler de cette actualité sociale à travers le journalisme citoyen. L'idée de l'émission est de vous expliquer la mission d'éducation aux médias à laquelle Radio Campus Orléans est si attachée depuis de nombreuses années à travers ses missions éducatives et pédagogiques. Mais par participatif, qu'est-ce qu'on entend? À qui appartient l'information et le droit de la diffuser? Quels sont les objectifs et les publics visés par l'audiovisuel participatif? Découverte pendant une heure du journalisme citoyen et participatif sur Radio Campus Orléans, c'est l'émission La Rédac Pop. Donc au programme, nous allons commencer par un petit micro-trottoir qui a été réalisé hier par Tania et d'autres membres des rencontres de l'audiovisuel participatif dans les rues d'Orléans pour avoir des avis sur le journalisme aujourd'hui. Ensuite, nous allons interroger Samy qui a organisé un petit peu pour Orléans toutes les rencontres de l'audiovisuel participatif. Il vous parlera de la Web TV participative, la Zotelli au 108 rue de Bourgogne. Ensuite, nous écouterons Daniel Pseny, journaliste au Monde, qui a été pendant 30 ans à la rubrique Médias. Ensuite, nous parlerons d'éducation aux médias avec Daniel Begdad pour Radio Campus Orléans. Et ensuite, petit quiz avec le public et discussion à travers le journalisme citoyen, donc au milieu de l'émission. Et ensuite, nous continuerons avec l'interview de Dominique Flora et de Clémence Boulefroy pour nous parler de la Fédération de l'audiovisuel participatif en France. Et ensuite, trois thèmes, le journalisme citoyen en milieu populaire, l'ancrage territorial du journalisme citoyen, notamment en milieu rural. Et ensuite, nous terminerons par le dispositif éducatif éducation aux médias. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est parti pour une heure d'émission sur Radio Campus Orléans 88.3.
Et on s'écoute tout de suite donc ton PAD.
C'est le PAD de porteur de parole. C'est un micro-trottoir qui a été réalisé par Tania, qui nous vient de la, web, de la radio participative Ligne 16 à Nice.
À quoi servent les médias pour vous?
Bon, essentiellement à l'information, à m'informer, à me distraire aussi. Hein, les rubriques culturelles m'intéressent beaucoup.
Je pense que les médias, ils servent à informer la population en général.
À être informé quand même de l'actualité.
Je pense qu'à la base, ça servait à informer et qu'au final, ça a un peu dévié sur la désinformation aujourd'hui. Même si j'essaye de garder le cap de l'information d'abord.
Ça sert à expliquer aux gens certaines choses qu'on n'est pas forcément au courant ou développer certains points que certaines personnes ne pourraient pas forcément comprendre.
Les médias servent à mettre en avant les problèmes de la société d'aujourd'hui, en 2023, et ce qui se passe en 2023.
Un média, ça permet d'être au courant des actualités.
À quoi servent les médias? À informer, normalement, mais peut-être aussi à formaté d'abord.
Pour moi, les médias, je les prends comme la science. Effectivement, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais tout dépend de l'utilisation que l'on a faite. Une illustration, effectivement, si nous prenons aujourd'hui le cas de Twitter ou TikTok, tout simplement, pour moi, les médias ont l'avantage, l'habileté de transformer sur le système de pensée des jeunes, des gens, à l'instar de Twitter, de TikTok, autant pour moi, plus TikTok. Je vais m'arrêter sur ce réseau social. Elle peut être utilisée à des fins de manipulation, à des fins d'espionnage géopolitique, effectivement.
À nous donner des informations sur la politique, surtout sur la vie de tous les jours, voilà.
Je pense que ça sert à transmettre des informations et c'est aussi du divertissement d'une certaine manière avec les réseaux sociaux. Mais après, il y a aussi de l'information vraiment informative et pas divertissante.
À quoi servent les médias pour moi ? Eh bien, je dirais que les médias servent avant tout à s'informer. Moi, j'écoutais essentiellement France Inter et d'autres radios. Certaines télévisions, France 2, France 3, France 3 Centre-Val-de-Loire, La 5, Arte.
Alors je m'informe exclusivement par Internet, sur le site Orange, personnellement, donc je lis tous les jours, et MSN également.
Ouais, les réseaux sociaux, après, faut aller chercher les infos soi-même, faut pas attendre qu'elles viennent à nous-mêmes, quoi.
Genre sur les réseaux sociaux, en mode Instagram et tout. Hein.
Bah moi c'est plus Twitter, mais après ça dépend, ça va être... Ouais, je sais pas, en vrai, ça... Les pages d'actualité, en vrai. Bon, quelque chose de sûr.
Bah, plutôt Instagram, je dirais. Après, ça m'arrive de regarder le journal sur Internet quand j'ai besoin pour les cours ou juste m'informer sur le monde, quoi. Mais ça m'arrive pas très souvent, je vais pas mentir, mais...
Moi, je m'informe plus sur les médias automobiles, tout ça.
La télévision le soir, donc les grandes chaînes connues, M6, TF1, 1945 pour citer les noms, BFM TV, et sinon les réseaux sociaux.
Que pensez-vous des médias alternatifs ?
Ben, je les connais peu, en fait. J'en pense du bien, mais j'y connais peu, à part Mediapart. C'est un peu une référence pour moi, et puis sinon pas grand-chose.
Ce que j'en pense, je pense que c'est très bien, ça ouvre le champ à d'autres formes de rhétorique.
Je pense que c'est une bonne idée, parce que ça permet de voir là où peut-être les autres n'ont pas cherché.
Je ne suis pas au courant de ces médias.
Pas grand-chose de bien, en fait.
Vous en connaissez ?
Non, pas forcément.
Je trouve que c'est bien, parce que ça permet de rester informé localement, et donc on se sent beaucoup plus concerné, comme on est habitant de la ville.
Je pense que ces médias mettent en avant des bonnes choses, mais des fois aussi des mauvaises choses.
Comme quoi, par exemple ?
Comme la mise en avant des mauvaises sociétés ou des bonnes sociétés.
Je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus que les réseaux sociaux ils se sont beaucoup développés ces derniers temps, et donc c'est aussi un nouveau moyen d'intégrer les jeunes dans la participation démocratique, etc. Je pense que c'est une bonne chose.
Je pense que toute initiative à la base locale est une bonne chose. Voilà. C'est que si on peut rester plus solidaire, s'informer sur un plan local, c'est bien. Ouais. Ouais. De proximité, voilà.
Je trouve ça super bien, parce que du coup, c'est vraiment en contact avec les gens à la vie de tous les jours. Donc c'est grave bien, je trouve.
C'est indispensable. Il faut qu'il y ait un média en parallèle qui puisse... informer différemment, voilà.
De retour sur Radio Campus Orléans 88.3, nous sommes en direct du studio pour cette émission en différé de la Rédac Pop, où nous allons parler des rencontres de l'audiovisuel participatif qui se tiennent en ce moment au 108 rue de Bourgogne à Orléans jusqu'à dimanche. Nous sommes avec Samy, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de ces rencontres qui se tiennent jusqu'à dimanche. Donc on peut le féliciter. Samy, tu travailles pour Zotelli, la web TV participative du 108.
Alors pour être précis, je travaille pour le 108, qui est une association qui gère un bâtiment autour d'événements culturels sur Orléans, voilà, qui propose beaucoup de choses. C'est une quarantaine d'associations qui sont réunies ensemble pour proposer plein de choses, plein de chantiers. Et l'un des chantiers qu'on leur propose, c'est justement la web TV participative Zotelli.
Et aujourd'hui, nous allons parler brièvement de ce qui se passe en ce moment au 108. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement qu'est-ce que c'est les rencontres de l'audiovisuel participatif ?
Alors Zotelli et le 108 sont adhérents de l'audiovisuel participatif depuis à peu près 5 ans. Et dès que j'ai rencontré ce petit groupe de gens qui faisaient un petit peu la même chose que moi un peu partout sur le territoire français, bravo les gars, je me suis dit c'est chouette. Et pourquoi pas, à un moment, les accueillir ici, sur le territoire, à Orléans, et puis faire ensemble voilà, des diffusions de films, essayer de réfléchir ensemble sur ce que sont les médias aujourd'hui, sur ce que sont les médias participatifs. Et voilà, c'est ce qu'on fait ensemble pendant 4 jours au moment des rencontres.
Et bah concrètement, on lit sur le site de l'événement que l'audiovisuel participatif est un moyen d'expression, d'information, de création et de rencontre entre les citoyens. L'audiovisuel participatif insuffle des relations sociales et dynamiques locales. C'est beau tout ça. Mais justement, à travers ton activité à la Web TV participative du 108 de Zotelli, peux-tu nous donner une mission particulière dans laquelle tu as parlé de l'actualité sociale ces derniers temps et comment tu as construit cette émission avec les citoyens ?
Alors, pour le coup, nous, ce qu'on propose pendant 3 mois, c'est de former les gens autour des outils qui permettent de réaliser des émissions de télé. On est parti sur l'option plateau télé, ça nous semblait la plus simple. Il n'y a pas trop de post-production. Voilà, c'était plus simple de réaliser ce genre d'émission. Et du coup, on invite des gens à venir parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Alors, des fois, ces associations, ces gens, ces citoyens prennent vraiment la rédaction à corps. Et des fois, c'est nous, avec les bénévoles, où on prend vraiment la partie rédactionnelle.
Mmh. Et brièvement, juste pour terminer ce petit entretien, qu'est-ce qui s'est passé au 108 qu'est-ce qui a insufflé pendant ces 2 jours? Quel genre de discussion? Quel genre d'atelier?
On a décidé dessiner 3 thématiques avec l'ensemble de la Fédé. Une première journée plutôt consacrée à l'éducation aux médias et à l'information. Alors au sens large, c'est pas seulement l'éducation aux médias, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est pas seulement pour les collégiens, c'est pas seulement pour les scolaires, c'est aussi pour les adultes, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs dans le cadre de la Web TV. Une deuxième journée plus consacrée à la vie associative, voilà, c'était aujourd'hui. Et puis demain, on va parler des outils numériques. On s'interroge beaucoup sur la liberté au niveau du numérique et ça tombe bien puisque... au 108, il y a une association qui fait dans les arts numériques et qui fait aussi dans la liberté du numérique. Je vais la citer, c'est la Labo Média, voilà, et qui va nous donner en fait toutes les astuces pour essayer d'être autonome, indépendant, voilà, le moins, à la fois le plus visible possible et le moins espionnable possible avec les outils numériques.
Merci beaucoup Samy pour ton explication.
Merci à vous, c'est cool la radio que vous soyez venu sur ces 3 jours.
C'est normal, merci. On se retrouve tout de suite sur Radio Campus Orléans après un petit jingle.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction.
Nous sommes de retour pour l'émission La rédac pop en direct du Ponton à Orléans en bord de Loire. Pour parler des rencontres de l'audiovisuel participatif et plus particulièrement de la couverture de l'actualité sociale par les médias participatifs et citoyens, nous sommes avec Dominique Fleura,
pas tout à fait présidente. On va en reparler pour l'organisation de notre fédération qui est un peu particulière de ce côté-là.
Qui coordonne la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif. Et nous sommes également avec Clémence Boulefroy, gestionnaire d'un réseau régional d'audiovisuel participatif dans les Hauts-de-France qui s'appelle Carmen. Est-ce que c'est ça, Clémence ?
Alors moi, je suis directrice de l'association Carmen, qui était un média participatif implanté à Amiens. Et on coordonne un réseau régional d'acteurs de l'éducation aux médias et à l'information sur les Hauts-de-France.
Voilà, c'était plus ou moins ça.
Ouais,
c'est assez technique, vos termes. Justement, on va en parler ensemble pour expliquer à l'auditeur comment structurer les médias participatifs au niveau territorial. C'est ma première question et elle s'adresse premièrement à Dominique.
Alors, au niveau territorial, je ne sais pas si on peut parler de structurer des médias participatifs. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle le niveau territorial.
Par exemple, une région ou un département.
Voilà, parce qu'un département pour les médias participatifs, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de médias participatifs. Parce que pour eux, ce n'est pas forcément facile de fonctionner. Donc nous, on fonctionne en réseau plutôt à l'échelle du territoire français. Alors, il y a quelques régions où il y a plusieurs médias participatifs. Je pense à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou la région Occitanie ou bien aussi dans les Hauts-de-France. Mais il y a des régions où ils sont un peu moins nombreux, comme par exemple en région Centre-Val-de-Loire. À notre grand regret, mais c'est comme ça.
puisque vous êtes aussi en charge du média participatif à Châteauroux, qui est MAP36, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, une association qui est née il y a déjà quelques temps donc, sur les quartiers de Châteauroux, comme un certain nombre d'autres structures de la fédération qui ont commencé donc, sur les quartiers. Et puis, donc, c'était en 89, donc c'est il y a quelques années, et qui aujourd'hui donc, est une web participative qui diffuse par Internet.
Et Clémence, justement, donc, tu es en charge du média de l'association Carmen à Amiens. Qu'est-ce qu'est un média participatif selon toi, à ton échelle ?
Carmen a 40 ans l'année prochaine. Carmen, c'est un acronyme pour création, action, recherche en matière d'expression nouvelle. C'est un média de l'audiovisuel participatif depuis ses débuts qui s'est créé dans des quartiers populaires d'Amiens par des travailleurs sociaux qui avaient envie à l'époque de faire valoir la parole de ceux qu'on n'entend pas et celles qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels. Ils constataient dans ces territoires-là que non seulement la parole des citoyens des quartiers populaires s'exprimait assez peu dans les médias traditionnels, mais qu'en plus, lorsqu'elle s'exprimait, elle était assez peu entendue ou écoutée. Donc à partir de là, ils ont créé un média d'expression citoyenne pour permettre aux citoyens et citoyennes, petits et grands, de prendre place dans l'espace médiatique qui était mis à disposition. Donc ils ont créé un espace médiatique autre, un média pas pareil, pour laisser libre cours à la parole citoyenne et pour pouvoir aussi interpeller les acteurs locaux, les acteurs publics, les bailleurs sur les responsabilités, sur le droit, sur les possibilités de faire évoluer la condition, les conditions sociales, en tout cas pour Carmen, sur les quartiers populaires d'Amiens.
Et justement, Dominique, qu'est-ce qui change dans le traitement de l'information par rapport avec un média participatif par rapport à un média traditionnel ?
Alors, je ne sais pas si c'est uniquement le traitement de l'information, mais ce qui est important dans ce que disait Clémence, c'est que lorsqu'on travaille avec dans des quartiers populaires et même en milieu rural, tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, ça paraît évident, on parle, on est diffusé, mais la parole des personnes, ça s'accompagne. Donc, en ce qui concerne donc, le travail qu'on fait dans nos médias à la Fédération, c'est si on s'appelle Fédération de l'audiovisuel participatif, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a tout un accompagnement pour permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer et pouvoir avoir une parole qui soit, entre guillemets, la meilleure image possible de ce qu'ils ont envie de dire. Et ça, c'est important parce que tout le monde n'a pas la parole facile. C'est pas si simple que ça de s'exprimer, d'être entendu et de pouvoir donc porter une parole habitante qui représente bien ce que les personnes ont envie de dire, quel que soit le profil qu'elles ont. Que ça soit à travers des jeunes, des enfants ou bien des habitants des quartiers populaires, des personnes qui sont d'origine étrangère. Donc il y a tout un accompagnement à faire et voilà.
Et justement, est-ce que tu pourrais revenir sur les spécificités de l'organisation de la Fédération de l'audiovisuel participatif en France ?
Alors, notre fédération, elle a cette particularité-là d'être donc une fédération de structure. Notre organisation, même si on est une association, c'est de ne pas avoir de président, de trésorier, de conseil d'administration. On travaille à travers des, ce qu'on appelle des réunions de contributeurs régulières, au cours desquelles on travaille sur des chantiers qu'on ouvre en fonction et des besoins et des envies des uns et des autres. Ça peut être des chantiers qui sont des chantiers techniques sur les outils numériques, sur la réalisation de films, sur les plateaux télé participatifs. Mais ça peut aussi être des chantiers qui sont plus autour des financements, comment on interpelle les pouvoirs publics, comment on organise la participation sur les territoires. Et c'est un peu cette particularité-là d'avoir une gouvernance très horizontale.
Petite dernière question par rapport à notre entretien à plusieurs voix sur la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif. Par exemple, sur certains territoires, les médias participatifs, parfois, traitent des sujets en première ligne par rapport à d'autres médias traditionnels comme France Bleu ou France 3. En quoi ces médias citoyens et participatifs ont une valeur ajoutée par rapport à cette information du service public, par exemple ? Clémence, qu'est-ce qui se passe à Amiens par rapport à ça ?
Alors c'est vrai que ce qui nous distingue de certains, la majorité des médias traditionnels, c'est qu'on va être à Carmen beaucoup moins dans le journalisme d'investigation. On va travailler beaucoup plus sur ce qu'on appelle le journalisme de solution, le journalisme positif. Donc un journalisme qui permet, à travers la réalisation, finalement d'avoir un cheminement de réflexion, de pensée, de pouvoir apporter des solutions à un problème. On va assez peu surfer finalement sur l'actualité qu'on appelle le brûlante. On va plutôt travailler sur des sujets de fond, l'accès au logement, l'accès aux droits, la lutte contre les discriminations. J'imagine que ce sont des sujets, en tout cas dans les radios campus, qui sont aussi abordés et qui vous sont chers. Je ne sais pas ce que tu entends par première ligne. Je veux dire que par
d'avoir
contre,
une certaine proximité.
Oui, c'est ça. Alors, pour beaucoup dans la Fédération de l'audiovisuel participatif, nous sommes notamment financés par le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité. On est vraiment des médias accessibles. On peut pousser la porte de Carmen et venir dire, bah voilà, moi j'habite à côté, j'habite le quartier, voilà, et je voudrais parler de ce sujet parce qu'il me tient à cœur, parce que j'ai pas de solution pour ça, parce que j'ai un problème, voilà, parce que je suis victime de harcèlement, parce que mon logement est insalubre, parce que j'arrive pas à accéder à une formation, parce que je suis en situation de handicap. Et en réalisant un reportage avec ces personnes-là, on arrive à apporter des solutions. Et c'est finalement autant le chemin que le résultat qui nous importe.
Processus.
Voilà.
Peut-être un petit mot de la fin sur cette question du média participatif et de sa valeur ajoutée.
Moi, je voulais insister sur le processus, à la fois le fait que nos structures, elles sont très ancrées dans leur territoire, et comme l'évoquait Clémence, c'est qu'il y a toute la démarche qui est super importante, parce que pendant qu'on réalise ces reportages, on réalise ces plateaux, on met en lien des personnes qui ne sont pas forcément habituées à travailler ensemble, et donc quelque part, on construit un message en commun, et on trouve des solutions en commun.
Et la participation, ça ne se décrète pas, c'est pas ouvrir un micro et dire vas-y, parle.
Merci beaucoup Clémence et Dominique. Nous allons passer dans quelques instants à l'interview de Ligne 16 et de TV Baie de Somme pour parler de journalisme citoyen en milieu populaire. A tout de suite sur Radio Campus Orléans 88.3.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
De retour sur Radio Campus Orléans 88.3. Nous sommes avec Tania 16 et
Laurent Lapeau de Télé Baie de Somme.
Voilà.
Bonjour.
Enchanté. Nous allons parler ensemble pendant quelques minutes de journalisme citoyen en milieu populaire. Est-ce que d'abord vous pouvez commencer par présenter vos médias respectifs, Tania?
Alors moi, en fait, j'accompagne un média citoyen, un site web de proximité sur le quartier de l'Ariane, qui est un quartier populaire situé à Nice-Est. Donc, dans le sud de la France.
Et moi, j'interviens je travaille auprès d'un média, Télé Baie de Somme, sur Abbeville, qui est profondément ancré sur plusieurs quartiers populaires de cette ville, de 20 000 habitants à peu près.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler votre nom ?
Laurent Lapeau.
Merci Laurent Lapeau pour TV Baie de Somme. Nous allons continuer la discussion sur le journalisme citoyen en milieu populaire. Par exemple, est-ce que Laurent, vous pouvez me donner l'exemple d'un projet que vous avez réalisé récemment pour illustrer ce journalisme citoyen selon vous?
Alors, ce qui définit peut-être aujourd'hui le projet, alors on est toujours aussi dans une forme de recherche qui vise à faire participer les personnes qu'on accompagne, et le projet sur lequel en ce moment on est concentré, c'est un projet qui rassemble des mamans je dirais au statut particulier, parce qu'il s'agit de mamans solo. Ils sont très nombreux dans les quartiers là où on travaille, et ces mamans elles portent beaucoup dans les quartiers, elles portent beaucoup de choses, elles portent souvent l'éducation, la question des fois de vie et de survie. Et ils rencontrent un souci, c'est qu'elles sont relativement isolées. Voilà. Donc le média, bah, c'est de les rassembler, de faire média avec elles et de mettre en exergue des problématiques et de chercher ensemble des solutions. Le média est, sert à trouver, à accompagner des solutions. Voilà.
Merci Laurent. Tania, un exemple de couverture sociale de l'actualité avec Ligne 16 à Nice.
Alors moi en fait je travaille avec un public à partir de 11 ans, donc c'est des 11-15 ans. Je réalise des ateliers tous les mercredis dans une association, donc c'est un espace numérique, le Hublot. Et en fait, moi, je qualifierais ça de journaliste ordinaire, puisque c'est fait par des gens ordinaires, pour des gens ordinaires. Et ces jeunes, donc moi, je fais de la radio plus que de la vidéo. Donc un exemple, bah, ça va être par exemple proposer un stage de 5 jours. Et le lundi, donc, je rencontre les jeunes et je pars d'eux. Je pars de leur sujet de préoccupation ou bien un sujet, mais ça peut être un portrait d'habitant au final. Et ensuite, ils font les questionnements et ils vont ensuite chercher les réponses dans la rue. Et ils réalisent ensuite le traitement, ils font du montage audio sur le logiciel Audacity. Et à partir de ça, ils écrivent leur aventure, ils choisissent les photos pour accompagner et ils publient le podcast sur ligne16.net. Et en fait, ils sont acteurs dès le départ. Ils sont dans la peau d'un journaliste, d'un reporter. Donc, c'est appelé aussi le journalisme numérique. Et j'aime bien aussi ce terme du journalisme ordinaire. Et après, on ne suit pas forcément une actualité, mais plus des sujets qui les préoccupent. Donc, exemple de sujet, l'amitié entre filles et garçons, la santé mentale, le harcèlement, bien sûr, revient aussi, le harcèlement de rue. Et dans ce cas, en fait, ils vont dans la rue, vous rencontrer au hasard, bonjour, que pensez-vous? Et les jeunes me renvoie aussi le fait qu'ils adorent rencontrer les avis différents, riches, et eux-mêmes s'aiguisent l'esprit. Donc ils ne jugent pas les réponses, mais par contre après, ils peuvent aussi voir un panel d'avis différents.
Donc on le sait, parfois la couverture médiatique de vos terrains, donc en milieu populaire, est parfois négative dans les milieux traditionnels journalistiques. Comment, à travers vos médias respectifs participatifs, vous essayez de déconstruire cette cliché?
Ben, en fait, moi, le média Ligne 16 est né en 2013. Et donc, c'était avant les attentats de Charlie Hebdo dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en fait, moi, je ne savais pas forcément que je faisais de l'éducation aux médias. Mais les jeunes ont quand même une méfiance vis-à-vis des médias mainstream qui traitent ces quartiers uniquement lorsqu'il y a des problèmes. Pour autant, dans ces quartiers, il y a aussi beaucoup de solidarité, des initiatives positives, des fêtes. Et les médias ne sont jamais là pour relever de ces situations, voire même simplement des portraits d'habitants. Et à travers ça, les jeunes aussi s'aperçoivent qu'une information peut être donnée. Ils sont bien placés aussi pour parler de leur quartier et donner aussi une autre couleur, un autre regard. Et donc, c'est aussi une manière de rééquilibrer l'image de ces quartiers.
Laurent, quelque chose à rajouter, peut-être par rapport à votre média qui est la télévision avec l'image? Oui. Comment on essaye de donner une image plus positive des quartiers populaires?
Alors, je crois que aujourd'hui à Télébetsom, il y a l'image, il y a aussi le son, il y a aussi la photo. Je crois qu'il faut savoir adapter les supports qu'on a au traitement et au public avec lesquels on apporte facilité et accompagnement dans l'information. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et ce que je voulais ajouter, c'est pour compléter ce que disait Tania, ce qui est notamment sur la part des jeunes, là, je terminais là une expérience de quelques semaines, et ce que les jeunes disaient pour communiquer, ce que les jeunes rapportaient pour communiquer auprès d'autres jeunes de l'intérêt de participer à un atelier média, comme tu fais comme je fais, c'est d'avoir retrouvé de la confiance en eux. Et ça, c'est hyper important. Parce que toutes ces personnes, s'ils sont aussi un peu comme ça, isolés, des fois pas forcément en sécurité, c'est parce que... il y a un manque de confiance. Et quand bien même le travail que l'on conduit peut apporter ça, c'est déjà beaucoup, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent et Tania, d'avoir été en direct du Ponton aujourd'hui pour les rencontres de l'audiovisuel participatif sur Radio Campus 88.3.
Merci à Radio Campus, merci beaucoup.
Merci beaucoup
à la Fédé de nous avoir invités aussi.
Nous allons poursuivre l'émission de la Rédac Pop. Le temps de changer d'invité, nous allons passer à l'ancrage territorial, mais cette fois-ci en milieu rural et européen. Je demande à TV Buissonnière de se rendre sur le plateau, à TV Mille Vaches et à Mo TV s'il est présent.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Nous sommes de retour sur Radio Campus Orléans 88.3. C'est l'émission La Rédac Pop. Nous sommes aujourd'hui en plateau délocalisé au soleil en bord de Loire, au Ponton à Orléans, pour parler d'audiovisuel participatif, parce que notamment les rencontres de l'audiovisuel participatif se sont déroulées depuis mercredi jusqu'à dimanche au 108 rue de Bourgogne à Orléans. Nous allons parler tout de suite d'ancrage territorial en milieu rural ou européen à travers les médias citoyens et participatifs. Nous sommes avec TV Buissonnière. Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, alors moi c'est Lila, je suis une des 8 réalisatrices de la Télé Buissonnière. Donc c'est un web média documentaire et participatif qui se trouve dans le sud-ouest de la France, dans le département de l'Ariège, qui est situé du coup entre Toulouse et les Pyrénées.
Merci Lila, nous sommes aussi avec Guillaume de TV Mille Vaches.
Bonjour.
Est-ce que tu peux présenter ton média ?
Oui, alors c'est un média participatif qui est implanté tout au sud de la Creuse et qui agit sur ce que l'on appelle le plateau de Mille Vaches et un petit peu aux alentours. C'est le cœur du Limousin, donc en Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze.
Et nous sommes aussi avec Mo TV. Présentez-vous.
Oui, donc Hervé Gigaroff pour Mo TV, qui signifie Marraine Oléron Télévision, et qui est également un média participatif de proximité sur, comme son nom l'indique, le territoire de Marraine Oléron sur la Charente-Maritime.
Et vous avez aussi un lien avec l'Europe, il me semble.
Et donc, oui, je suis venu surtout parler des projets que la Fédération de l'audiovisuel participatif mène en collaboration avec d'autres partenaires européens dans le cadre de projet Erasmus.
Parfait. Donc pendant ces 5 minutes à 7 minutes, nous allons faire le grand écart entre le territoire rural et le programme Erasmus en partenariat avec la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif. D'abord, première question, comment on parle de journalisme citoyen en milieu rural ?
Eh bien, je pense qu'on en parle un peu de la même manière qu'en territoire urbain, sauf qu'on est un peu plus déployé. Nous, pour le coup, en Ariège, on a peut-être différentes manières de fonctionner. Par exemple, on va en... Voilà, ça marche beaucoup par vallée en Ariège, ou haute et basse Ariège, qu'on soit dans la montagne ou sur le plateau. Et là, pour le coup, puisqu'on ne peut pas se déployer sur tout un territoire, tout un département en y vivant, des fois, on fait des résidences dans certains petits territoires, dans certains petits villages, où on va interroger les habitants. On est là sur quelques semaines et on discute avec eux de ce qu'on pourrait raconter du territoire. Après, c'est peut-être aussi différentes problématiques, surtout, qui font face... quand on parle de journalisme citoyen, c'est qu'on va demander aux habitants leur avis sur leur territoire aussi. Et évidemment, on fait face à d'autres problématiques en milieu urbain, que ce soit celui de la mobilité, le milieu agricole, voilà. Je ne sais pas si Télé Mille Vaches veut rajouter quelque chose.
Et justement, quel est l'accès à l'information en milieu rural ? Qu'est-ce que vous voyez à Télé Mille Vaches ?
Dans le cadre de dans le cadre de Télé 1000 Vaches, j'ai l'impression que au moment de sa création, qui date, hein, je parle de la fin des années 80, il y avait vraiment cette idée d'aller chercher la possibilité de créer un espace d'information, de médiation et d'intérêt politique dans un espace où il y avait le sentiment, à mon avis réel, qu'il n'y avait pas de maillage informatif à cette époque. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui. Il y a quand même une déterritorialisation de France Bleu, de France 3 aujourd'hui qui n'existait peut-être pas à cette époque. Mais quand bien même, avec l'historicité sur cette période, je me rends compte que l'association dans laquelle je travaille profite aujourd'hui aussi d'une certaine confiance qu'ont eu les personnes aussi vis-à-vis de ce média, une certaine habitude à se l'approprier eux-mêmes. Et aujourd'hui, on est très content, par exemple, d'avoir des personnes qui viennent toquer chez nous assez spontanément en disant « J'aimerais parler des projets d'éoliennes, par exemple, qui veulent s'installer sur le plateau d'une manière un peu différente que telle que je l'entends dans les médias nationaux ou locaux, on va dire, plus officiels. » Et nous, l'une de nos missions, c'est aussi de leur mettre à disposition ce matériel-là pour offrir aussi une capacité d'expression qui vienne d'eux-mêmes.
Et à Oléron, qu'est-ce que vous observez, notamment sur le territoire ?
Je reprends la dernière partie que tu viens de dire, c'est qu'effectivement l'une des spécificités de projet auquel Marraine Oléron TV a été amenée à appeler, c'est on va dire des groupes qui nous prennent pour une boîte classique de prod, qui viennent nous voir en disant voilà, on aimerait faire un film sur l'histoire de la viticulture oléronaise, l'histoire des comment fonctionnent les écluses à poissons. Et nous, on leur répond, on a un fonctionnement différent. Vous êtes les meilleurs interlocuteurs de ce que vous voulez raconter. Donc, on vous propose de vous former à l'écriture de scénarios, à la prise de vue et au montage de films. Et comme c'est vraiment le sens, un des nombreux sens de participatif qui peut être donné par notre action.
Parfait, je vois. Donc tout à l'heure, en début d'émission, on avait le témoignage de Daniel Pseny, journaliste au Monde, qui nous parlait de cet intérêt pour les médias participatifs aujourd'hui, mais peut-être une lacune en matière de déontologie pour des citoyens qui n'ont pas de formation journalistique. Vous, en tant que passeur de connaissances d'éducation aux médias, quels sont les rudiments que vous leur apprenez par rapport à la diffusion de l'information et au traitement journalistique?
Oui, je peux répondre pour avoir participé à des projets en milieu scolaire, lycéen et notamment lycéen pro. C'est l'une des bases de la transmission qui est importante, hein, la déontologie de la circulation de l'information. C'est tout ce qui est au niveau élémentaire, c'est on va dire les droits à l'image. Quand des lycéens sont en prise de vue, qu'ils s'assurent que les personnes filmées ça donne leur accord, hein, l'acquiescement à le filmer. Et puis des questions d'éthique diverses sur la façon dont les interviews sont menées.
Lila.
Et puis aussi, surtout, que quand on tient une caméra, bien qu'on puisse le voir dans certains médias, on a vraiment un regard qui n'est pas objectif, mais subjectif. Quand on choisit un angle, quand on choisit de parler de tel ou tel sujet, c'est qu'on assume un regard sur le réel. Nous, à la télé buissonnière, c'est vrai que on a tendance à assumer un regard documentaire sur l'environnement qui nous entoure. Mais pour ça, c'est d'assumer un regard. Et aussi, quand on parle d'éducation aux médias, nous, il nous arrive de faire des ateliers en milieu scolaire, par exemple, où ça se passe en deux temps. Ça se passe d'abord dans un temps de décryptage avec une association qui est proche de nous, qui s'appelle Synapse, qui va décrypter un média, qui va décrypter un article ou même de la télé-réalité pour comprendre comment ces objets audiovisuels sont construits. Et puis dans un second temps, nous, avec les réalisatrices de la télé, on amène les participants à créer leur propre film et du coup à se positionner en tant que fabricant, entre guillemets. Et, ça change tout.
Et peut-être, Guillaume, la spécificité de TV 1000 Vaches, c'est l'audiodescription que vous avez présentée ce matin au 108.
Oula, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un vaste sujet
Brièvement.
Qui qui peut dériver un petit peu de celui de l'information en tant que telle, c'est une question d'accessibilité. En deux mots, l'audiodescription, c'est le fait de pouvoir décrire de l'audiovisuel à une personne aveugle ou malvoyante, donc qui ne peut pas profiter de la bande image. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être lacunaires, et on rajoute un commentaire audio sur la bande son afin de, que la personne puisse profiter aussi voilà, des productions audiovisuelles. On en parle plutôt en fiction, dans le documentaire et le reportage, c'est beaucoup plus exceptionnel pour le moment. Mmh. Et effectivement, l'un des chantiers pour l'instant tout à fait balbutiant sur lequel je suis en train de me positionner, peut-être au niveau de la FEDE, c'est de pouvoir proposer pour certains films qui pourraient trouver un public un petit peu plus large que dans nos localités respectives, de pouvoir offrir cette accessibilité-ci.
Enfin, nous allons parler du partenariat avec Erasmus, donc la Fédération nationale de visuel participatif en lien avec l'Europe. Parlons-nous-en.
C'est certainement parti d'un constat au cours de l'histoire de découvrir que nous n'étions pas en France les seuls à pratiquer ce genre de télévision radio et d'être amené à avoir été en lien avec des partenaires historiquement essentiellement espagnol et allemand, et donc de monter des projets Erasmus. Il y en a eu essentiellement deux, peut-être plus à ma connaissance, qui se sont intitulés Media Fellow et InMedia, dont le but était de mettre en commun les pratiques et voir quelles étaient les pratiques donc de vidéo et de radio participative, et voir vers quoi on pouvait avancer ensemble dans l'avenir, dans la construction, mais essentiellement se connaître en premier et partager cette façon de faire la télévision participative qui évidemment est un peu variable suivant les cultures.
Merci beaucoup à Lila, Guillaume.
Merci.
Et Hervé pour nous avoir présenté MoTV, TV Mille Vaches et TV Buissonnière. Merci pour les applaudissements. Je vais appeler à venir en studio pour parler du dispositif pédagogique et éducatif. Ce sera la dernière table ronde de cette discussion et de cette émission sur la Rédac Pop. Nous sommes sur Radio Campus Orléans 88.3. J'appelle sur le plateau pendant le temps de s'installer d'une petite pause musicale. Nous allons avoir Samuel Valle, TV Mouche, Cométique, et éventuellement une ancienne professeure du CELSA, si elle veut bien nous parler d'éducation aux médias. Pour finir cette rencontre très riche, on s'écoute tout de suite un artiste local. Daniel, tu peux nous en parler ?
Eh bien, c'est Soma X avec le titre Autotune. Il est orléanais et bourré de talent comme beaucoup de jeunes.
Bonne écoute sur Radio Campus.
Un texte de plus, c'est fou quand je me sens fort sous autotune. Je ressens les percussions des chants de la rue. Je t'embrasse sous l'orage quand j'attends le bus. Je t'entends plus. Un texte de plus, c'est fou quand je me sens fort sous autotune. Je ressens les percussions des chants de la rue. Je t'embrasse sous l'orage quand j'attends le bus. Mais je t'entends plus. Je veux voir les nuages, pas comment faire. Mon avis peut se passer de tes commentaires. Je m'attache un peu trop et je suis collant, ouais. C'est juste qu'en vrai j'ai peur d'être seul sur terre. Soma ne parle pas. Depuis que t'es là, moi je suis rien sans toi. Soma ne parle pas. Depuis que t'es là, moi je suis rien sans toi. C'est fou quand je me sens fort sous autotune. Je ressens les percussions des chants de la rue. Je t'embrasse sous l'orage quand j'attends le bus. Mais je t'entends plus. Un texte de plus, c'est fou quand je me sens fort sous autotune. Je ressens les percussions des chants de la rue. Je t'embrasse sous l'orage quand j'attends le bus. Mais je t'entends plus. Un texte de plus, c'est fou quand je me sens fort sous autotune. Je ressens les percussions des chants de la rue.
Je t'envoie sous l'orage quand j'attends le bus. Je t'entends clair, un texte de plus. C'est fou quand je me sens fort sous autotune. Je ressens les percussions des chants de la rue. Je t'embrasse sous l'orage quand j'attends le bus.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans.
De retour sur Radio Campus Orléans 88.3, nous sommes pour l'émission La Rédac Pop. Dans le cadre des rencontres de l'audiovisuel participatif, nous sommes en direct du ponton Guinguette de Loire à Orléans et nous allons faire ce dernier tour de table ronde sur l'éducation aux médias et particulièrement la couverture de l'actualité sociale par les médias participatifs et citoyens. Nous allons parler de transmission, d'éducation et de pédagogie avec Anne. Enchantée Anne.
Enchantée.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors moi je suis professeure des écoles à Orléans, je fais d'éducation aux médias depuis une dizaine d'années. À la fois avec des partenaires locaux, nationaux, et puis des fois toute seule aussi avec mes élèves, donc, et aussi avec le CLEMI, qui est, on pourrait dire, un service de l'éducation nationale qui est vraiment dédié à l'éducation média depuis 40 ans maintenant.
Micha, présentez-vous.
Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Micha. Moi, je travaille à Télémouche, donc, qui est un média participatif qui est porté par une autre association qui s'appelle Comédique Diffusion à Marseille. Et dans ce cadre-là, je suis animatrice éducation aux médias en milieu scolaire, dont du collège.
Et Mathieu ?
Et moi, je travaille avec donc, Micha à Télémouche et je suis sur la partie plutôt réalisation, montage des vidéos qui sont produites dans le cadre des formations et enseignements EMI.
Parfait. Justement, première question à vous, Anne. Comme vous êtes professeur des écoles, comment on intéresse les jeunes au journalisme ?
Alors, comment on les intéresse ? C'est déjà leur donner envie de découvrir ce qui les entoure. Donc, on peut partir de choses très simples, du quartier, d'événements aussi, d'actu, hein, d'actu chaude. On peut aussi partir de leurs émotions par rapport à un événement d'actu. J'en parlais, l'actu chaude, ça peut être... le harcèlement, par exemple, j'aperçois une élève, excusez-moi, je la salue, parce qu'on a un tournage lundi avec France Télévisions. Donc, on va faire un petit module d'éducation à l'image à partir d'un court-métrage d'animation. Donc, voilà, c'est aussi ça. C'est leur apprendre à découvrir des productions artistiques, d'actualité, apprendre à décrypter. Donc, ils se sentent très vite concernés. Dès leur plus jeune âge, j'ai envie de dire. On peut le faire dès la maternelle.
Merci Anne pour ce côté de transmission. Et Micha, qu'est-ce qui se passe à Marseille avec les élèves ? Qu'est-ce que Cométique propose comme éducation aux médias ?
Alors du coup, nous, on fait une éducation aux médias qui se veut critique. Donc on arrive avec un certain bagage qui est le regard des médias, qui est un regard qui se veut forcément objectif. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer un certain esprit critique et aussi leur faire savoir qu'à cet âge-là, on a tendance à croire que les médias présentent une vision très objective et qui représente la vérité sur un regard sociétal. Et nous, ce qu'on essaye de leur apprendre à développer, donc c'est un esprit critique, c'est-à-dire se rendre compte que les journalistes ont des biais sociologiques, des biais idéologiques, et ce qui fait que le discours dominant qu'on peut entendre dans les médias classiques ne représente pas une certaine vérité sociétale, et que du coup c'est très important de s'informer via différents canaux pour réussir à se faire sa propre idée sur ce qui se passe dans l'actualité du monde.
Et Mathieu, justement, tu l'as dit, tu es aussi à Cométique à Marseille, mais plus sur le côté réalisation et image. Comment, d'un point de vue technique, on sensibilise les jeunes à la caméra, parfois un outil qui peut paraître un petit peu grandiose et assez impressionnant maintenant qu'on filme toujours avec nos téléphones portables ?
Bah justement, en fait, ils ont une pratique intuitive de la captation, du montage même, de plus en plus. Avec Micha, on voit qu'ils sont... ils montent, ils vont même jusqu'à la diffusion. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin de les intéresser. Et d'ailleurs, nous, on remarque que dans le cadre des, des éducations médias information, c'est les sujets viennent directement d'eux, avec des choses qui nous ont étonnés quand on a commencé, comme le harcèlement scolaire, même une fois c'est le budget de l'école. Enfin, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de les pousser à réfléchir à ça. C'est plutôt, plutôt leur, comme disait Micha aussi, de leur donner un peu de recul sur le fait que créer des images, ça implique des choix, des distances, des choses. Et eux, ils le vivent tellement au quotidien qu'en fait, bah, ils sont quand même assez curieux de prendre ce recul-là. Et nous, on aime beaucoup avoir cette dimension pratique à côté, parce que dès qu'on les met dans la pratique, il y a quelque chose à faire. Et bah là, une fois qu'ils sont dedans, on sent aussi que ça les active à penser. On espère que ça sert pour la suite, après, dans leur rapport aux médias, l'information. Mmh.
On en parlait à midi ensemble. Anne, vous avez suivi la formation continue du CELSA pour devenir et vous informer par rapport au journalisme. Qu'est-ce qu'en France, les formations journalistiques proposent ou ne proposent pas assez en termes de transmission de l'information entre les journalistes et les citoyens?
Alors là, moi, j'ai fait une formation déjà qui date un petit peu. Je pense que les médias traditionnaux se sont emparés quand même maintenant de cette proximité. On en parlait avec les mille vaches. Je crois que quand même les antennes locales ont développé une proximité. Par contre, les médias participatifs, c'est vrai qu'ils proposent vraiment aux citoyens de s'emparer. On parlait d'esprit critique, hein, dès le plus jeune âge. Je crois que c'est leur donner un moyen de s'exprimer. Et j'ai entendu aussi d'autres témoignages, de prendre confiance en eux, de ne pas peut-être subir ce flux d'informations, mais s'emparer finalement de questions citoyennes fortes. Donc c'est peut-être le plus des médias participatifs, créer du lien, donner un moyen de s'exprimer.
Et concrètement, comment se passe un atelier d'éducation aux médias avec Comethique à Marseille?
Alors juste peut-être pour rebondir à la question précédente, en général, le parcours typique d'un journaliste passe par une école de journalistes qui finalement est en France un parcours qui est assez homogène. C'est un parcours où on va apprendre à répondre à des urgences en termes de deadline, des urgences en termes de traitement de l'information. Et du coup, finalement, c'est des formations qui n'apprennent pas à faire du reportage, à faire des enquêtes de fond. Moi, je viens d'anthropologie, donc forcément, on a un rapport à l'enquête de fond qui est beaucoup plus important en termes de temps et de moyens. Et du coup, c'est vrai que de voir comment les journalistes de nos jours sont un peu contraints par leurs journaux, sont contraints de faire peu en peu de temps, forcément, ça laisse des fois une information qui peut être un petit peu manquante, ou en tout cas qui est vraiment abordée avec un certain regard qui peut être un petit peu amoindri finalement. Et du coup, ce qui est intéressant avec les médias participatifs, c'est justement de permettre à des citoyens lambda, donc c'est-à-dire des personnes qui ne sortent pas d'école de journalisme mais qui ont quelque chose à dire sur la société de par leur expérience du monde, leur permettre d'avoir un médium qui relaye ce qu'ils ont à dire. On peut être infirmier et faire un article. Et d'ailleurs, moi, je considère que des très, très bons journalistes actuellement sont des journalistes qui ne sortent pas forcément d'une école de journalisme. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire dans les écoles. On essaye de leur dire, voilà, vous êtes qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'être journaliste, mais vous avez quelque chose à dire sur la société. Et donc, par un process de recherche d'informations, de collecte de données et de synthétisation, vous avez quelque chose à dire sur la société. Et nous, on a les moyens, en tant que médias participatifs, de relayer cette parole. Et donc, concrètement, comment ça se passe? C'est qu'en général, on arrive dans les écoles. Ce qu'on fait, c'est qu'en général, les jeunes sont pas forcément hyper informés, ils sont pas forcément hyper connectés à l'actualité. Donc ce qui passe, c'est qu'on fait un début d'atelier avec des photos d'actualité où on leur demande, on fait vraiment une analyse d'image. Qu'est-ce que vous voyez au premier plan, au second plan? Qu'est-ce que vous imagineriez comme légende à cette photo? Et à partir de ça, on les connecte un petit peu à l'actualité. Et à partir de cette actualité, on arrive à réfléchir sur pourquoi c'est important de s'informer, quels sont les différents angles qui sont abordés sur les événements qui ont lieu actuellement. Et on arrive à leur faire comprendre qu'il y a différents points de vue et que c'est important d'avoir du coup ces différents phares, ces différentes lunettes pour lire l'actualité et non pas juste la gober, si je puis dire, mais vraiment arriver à un avis éclairé de citoyens, citoyennes.
Mathieu, peut-être le mot de la fin par rapport à cette idée de transmission et d'éducation. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir, quelque chose qui t'a fait vibrer dans cette idée de pédagogie avec les élèves dans ton travail à Cométique?
Là, je sais que récemment, on a fait un atelier dans un collège à Orgon, près de Cavaillon. Et là, ça a été vraiment une proposition de la documentaliste et des élèves qui étaient en fait de faire une version vraie et fausse. C'est comme ça que ça avait été amené, en tout cas avec les mêmes images, de monter quelque chose qui serait, on va dire, objectif, quelque chose subjectif. Et ça, ça m'a marqué déjà parce que moi, dans ma pratique de vidéaste, quand je monte quelque chose, je vais vers ce que je veux dire et ce qui me semble juste. Donc on explore rarement les côtés un peu faux, enfin de travailler la matière comme ce qu'elle a vraiment de manipulable, alors que pourtant on parle toujours de la manipulation de l'information, etc., tout ça. Et surtout de voir que ces élèves là en gros, dans une version du montage, le thème était la vie scolaire, et dans la première version ils disent clairement que la vie scolaire c'est bien et que c'est important et que c'est super. Et dans la deuxième partie, par un jeu de montage, de décalage, puisqu'il y a à la fois des interviews d'élèves, à la fois de l'interview des personnels de la vie scolaire, ils disent que c'est très dur et qu'on leur crie dessus. Et ça m'a vraiment marqué juste à deux niveaux. Le niveau moi, où ça m'a permis presque de faire quelque chose que je ne peux pas faire dans mon travail, puisqu'il n'y a pas de raison de trafiquer des images. Et du coup, de reprendre conscience et de les voir prendre conscience que c'était eux quoi, qui disaient « j'ai pas dit ça ». Et ça m'a renvoyé à la puissance aussi du dispositif, du montage, tout ça, et de voir que des collégiens qui ont sans doute même plus de compétences en montage, en diffusion, tout ça que nous, là, ils se confrontaient quand même au fait de dire c'est une cuisine, c'est une recette qui est pas donnée, et de voir les deux côte-côte proposées de la part de la documentaliste et des élèves eux-mêmes, je sais pas, moi ça m'a semblé être une bonne... Récemment, ça a été un souvenir qui m'a marqué... qui montre bien l'équilibre aussi, c'est pas nous qui amenons juste une proposition d'éducation aux médias et de l'information donnée, c'est vraiment souvent les élèves, les documentalistes, quand c'est avec des documentalistes, qui la proposent, et nous du coup on a juste à être enthousiastes et le plus exigeant possible avec leurs propositions quoi. Et ça c'est trop bien.
Merci beaucoup Mathieu et Micha pour Cométique à Marseille, et merci à Anne qui nous vient d'Orléans et qui nous a parlé d'éducation aux médias. Merci pour cette dernière table ronde riche et intéressante sur la transmission et la pédagogie par rapport aux médias citoyens et participatifs en milieu scolaire. Voilà, l'émission se termine sur Radio Campus Orléans 88.3, c'était la Rédac Pop. Nous étions en direct du ponton à Orléans en bord de Loire pour parler d'éducation aux médias, de médias participatifs et citoyens dans le cadre des rencontres de l'audiovisuel participative qui se tiennent jusqu'à dimanche au 108 rue de Bourgogne. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre participation participative et citoyenne. Ce fut un échange très intéressant et merci beaucoup et bonne écoute sur Radio Campus Orléans.
Merci à vous.
Et puis un merci. Maximum d'applaudissements pour Lucas Santerre quand même qui a mené... rondement cette émission.
Merci.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Mwana wangu yuhusu pachake mfana unga murure. Mwana wangu akadzidza.